France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, Florilège Francis Lopez, quatrième partie. Francis Lopez nous a quittés il y a 30 ans. Encensé par les uns, décrié par les autres, il a marqué de façon incontestable l'histoire du spectacle en France et à l'étranger durant un demi-siècle. Prince de l'opérette durant toutes les années 50, il a encore tenu le coup face à l'évolution musicale ambiante des années 60 en adaptant un peu son style. La mort de son librettiste Raymond Vinci en 1968 et 2 ans plus tard de sa vedette Luis Mariano ont cependant marqué la fin d'une époque. La situation est aggravée par 2 autres disparitions, celle d'Henri Varna, le directeur historique du Théâtre Mogador, et celle de Marcel Lamy, le directeur du Châtelet, qui depuis le printemps 1971 a été mis en faillite. Chez la jeune génération, la mode est au rock et aux comédies musicales américaines, telles Hair ou Godspell. Mais il existe encore un vaste public, notamment en région, qui aime l'opérette à grand spectacle.
Une opérette du Châtelet représentait en général au moins une 20aine de décors minimum. Ça représentait l'un dans l'autre 500 à 600 costumes. Ça représentait, si vous voulez, sur scène, à la grande époque du Châtelet, 80 personnes ou 90 personnes sur scène. Et 25 ou 30 musiciens dans la fosse. Donc c'est immense. Je ne vous parle pas des machinistes, où il y a eu, Châtelet à la grande époque, il y avait 15 à 20 machinistes, il y avait 10aine d'électriciens et tout le monde. C'est vraiment une usine, là, un théâtre d'opérette. Ce n'est pas comme un théâtre de comédie où il y a 3 personnages, un décor et un électricien. Le théâtre d'opérette, ça représente vraiment une usine.
Mon amour,
jusqu'à la
L'opérette est donc indéniablement en crise. Et l'œuvre que Francis Lopez présente à Mogador depuis la fin 1970, Viva Napoli, avec Rudy Irigoyen et Nicole Broissin, dont nous venons d'entendre le duo d'adieu, pourrait bien être la dernière. Le Châtelet est en effet fermé depuis quelques mois, avec 200 personnes qui se retrouvent au chômage. Pressé par les syndicats du théâtre et par les affaires culturelles de la ville de Paris, qui est propriétaire des murs, Francis Lopez accepte de prendre la direction artistique du Châtelet, aux côtés du nouveau directeur André Huette. Le voici interviewé par Micheline Sandrel à la télévision pour le Journal de Paris.
Oui, ça donne un coup de fièvre, d'autant plus que c'est quand même un travail assez grand, ce qui fait que je prévois d'abord un programme pour cette année, ce que j'appelle le programme immédiat, et puis à partir de la saison prochaine, pour 10 ans, le programme de super grand spectacle.
Voilà. Oui, parce que c'est pour 10 ans. Il est vrai que c'est une maison que vous connaissez bien.
Oui, j'ai travaillé 22 ans.
Mais compositeur, auteur, c'est un petit peu différent de la direction.
Oui, seulement je vais vous dire, j'ai eu la chance de travailler pendant 22 ans aux côtés de Maurice Lehmann. Et mon Dieu, j'ai pris beaucoup de leçons et j'ai retenu toutes les meilleures choses. Et il en avait beaucoup, ça a été un très grand directeur. J'ai donc retenu tout ça. Ensuite, j'ai eu pas beaucoup de temps Marcel Lamy, mais comprenez, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont appris le métier. Maintenant, je crois que je le connais à fond.
Francis Lopez inaugure sa nouvelle fonction en février 1972 avec l'opérette tzigane Gypsy, imaginée au départ pour Luis Mariano, qui a été créée au mois de décembre précédent au Théâtre Sébastopol de Lille. Il accomplit le tour de force de la remontée au Châtelet en 3 semaines, avec certes des moyens plus réduits que d'ordinaire dans ce grand théâtre, en raison du format d'origine à Lille. Le compositeur travaille désormais avec de nouveaux auteurs. Son ami Claude Dufresne se charge des livrets, certes moins raffinés que ceux de Raymond Vinci durant les décennies précédentes, et Daniel Ringold se charge, lui, des couplets. Son épouse Anja, d'origine allemande, est souvent présente dans les partitions avec quelques airs additionnels. Sa vedette est un nouveau ténor italien nommé José Todaro qui se révèle comme un digne successeur de Luis Mariano. Sa belle voix est assortie d'un physique de jeune premier et d'une grande présence scénique.
Gypsy, Gypsy, c'est un cri dans tous les pays. C'est l'appel de la patrie pour les Romani. Gypsy, Gypsy, c'est un cri, c'est un chant d'espoir qui s'envole dans le soir avec Vénétie. Gypsy,
la distribution de Gypsy, dont l'action se déroule en Bohême sous le règne de François-Joseph d'Autriche, comprend aussi Jeannine Roux, Maurice Baquet, Max Montavon, Nicole Briard, Sylvia Paul et bien d'autres, avec en outre un divertissement de danse réglé par Jacques Chazot. En février 72, les auteurs sont reçus aux actualités de France Inter par Yves Mourouzi, qui se tourne d'abord vers Claude Dufresne.
Je dois vous dire que c'est pour moi une expérience extrêmement intéressante que de travailler aux côtés de Francis Lopez, parce que l'écriture d'une opérette est une chose très spéciale. On la vit, on la joue, on la respire avant même de l'avoir faite, et c'est une œuvre qui sort d'une équipe, qui ne sort pas simplement d'un homme, qui sort d'une équipe. C'est pourquoi j'ai été évidemment très heureux de cette collaboration. Il y a 25 ans que Francis et moi nous connaissons, nous sommes connus petits garçons, on peut le dire, quoi, en culotte courte, presque, il y a 25 ans. Et c'est la première fois que nous travaillons ensemble, mais je pense que ces 25 années d'amitié et de camaraderie ont joué beaucoup pour notre collaboration. Ce qu'il ne vous a pas dit lui-même, c'est que ce travail qu'il a accompli au Châtelet a été considérable, puisque vous savez qu'il a également mis en scène la pièce, et qu'au fond, tout ce spectacle repose sur ses épaules. Alors, chacun de nous, nous apportons évidemment une pierre à l'édifice, mais enfin, cet édifice, vous le disiez tout à l'heure, repose heureusement sur une carrure qui est solide.
Alors, venons-en au sujet de Gypsy, Francis Lopez. De quoi s'agit-il, brièvement résumé ?
Eh bien, il s'agit, brièvement résumé, comme vous dites, de l'histoire de la révolte des Bohémiens en 1888, contre la domination de l'Autriche-Hongrie de François-Joseph. Et à cette occasion, les Bohémiens révoltés, et en particulier leur chef, que joue d'ailleurs José Todaro, ont décidé de frapper un grand coup pour l'opinion mondiale et d'assassiner Rodolphe, le fameux Rodolphe de Meyerlin. Je ne peux pas aller plus avant dans l'histoire, mais je peux vous dire que le postulat est très bien construit par Claude Dufresne et n'est pas sans certaines analogies avec les situations actuelles dans le monde.
Vous avez parlé de José Todaro. Comment découvre-t-on des voix nouvelles, Francis Lopez ?
Ah bien, écoutez, je veux dire une chose, je ne l'ai pas découvert exactement. Il existait, il vient de la Scala de Milan, il chantait l'opéra et l'opéra comique. Et c'est le directeur de l'opéra de Lille, M. Van der Donck, qui un jour m'a téléphoné, m'a dit « Si tu as le temps, tu prends la voiture et tu viens écouter Tosca, tel demain soir ou après-demain soir, à Lille, j'ai un type formidable. » J'ai été écouter Tosca. Et j'ai découvert Todaro, qui avait toutes les qualités pour faire un grand ténor, une grande vedette d'opérette. Je l'ai décidé, mais il a voulu, c'est un peu à cause de lui d'ailleurs que nous avons essayé Gypsy à Lille, parce qu'il voulait voir, c'était nouveau pour lui. Et la confiance qu'on a eue devant le Triomphe à Lille, il m'a dit d'accord, je viens à Paris.
Vous saviez à ce moment-là que vous reviendriez à Paris ?
Non, je vais vous dire la vérité, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est que en réalité, le Châtelet, je ne voulais pas tellement, parce que c'est beaucoup de soucis, beaucoup de travail. Mais je peux dire que j'ai été obligé, sous les pressions de la ville de Paris, des affaires culturelles et des directions de tout ça, on m'a dit il faut le prendre, autrement il va fondre l'eau. Mmh. Eh bien j'ai dit il faut y aller. J'ai beaucoup de reconnaissance au Châtelet, vous savez.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Au même moment, une équipe de télévision menée par Micheline Sandrel vient au Châtelet pour filmer les répétitions.
À titre exceptionnel, aujourd'hui, le clap va être fait par Francis Lopez. Vous faites tout ici, Francis Lopez.
Il faut tout.
Au Châtelet, vous faites tout. La musique,
la musique
les répétitions, vous faites attention aux lumières, et je crois même que Jacques Chazot vous a expliqué un de ses problèmes. Ça glisse trop.
Oh oui, mais ce sera résolu dès ce soir.
Oh oui, surtout qu'il reste beaucoup de temps avant de présenter Gypsy.
Oui, il reste encore 3 jours.
Oh,
et de toute façon, au Châtelet, on est habitué à faire des miracles, alors.
Vous voulez nous présenter ?
Eh bien, je vous présente José Todaro, le nouveau ténor qui va chanter Gypsy au Châtelet à partir de samedi prochain, et qui vient de la Scala de Milan, tout ça. Il parle très bien français, d'ailleurs, vous savez, vous pouvez...
Sans accent.
Avec un petit accent.
Non seulement il parle très bien français, mais il chante encore son amour d'une façon très convaincante.
Toi, plus que ma vie, je t'aimerai longtemps, toujours.
Toujours très agréable de s'entendre dire qu'on sera aimé longtemps, toujours. Hein, c'est vraiment très affectueux. Là, Jacques Chazot, je ne peux pas vous demander de danser dans cet espace.
Ça sera un petit peu difficile. Bon, Francis me le demande, je le ferai.
Justement, nous allons ouvrir tout à l'heure sur la grande cérémonie du bal de l'anniversaire de l'empereur, au cours duquel j'ai réussi à avoir à prix d'or Jacques Chazot pour danser.
Je suis enchanté d'être là, je dois le dire. C'est la première fois que je suis sur les boulevards. Après avoir été national, me voilà municipal. Et je suis très très content.
C'était l'intermède dansé dans Gypsy par Jacques Chazot. Les critiques ont été plutôt sévères envers cette opérette, notamment en raison des moyens déployés, jugés trop modestes. Mais le public est au rendez-vous, car l'allocation ne désemplit pas. Un an plus tard, Francis Lopez répond à Martine de Breteuil pour France Inter.
Francis Lopez, vous êtes un homme heureux. Enfin, on a le droit de le dire, puisque nous ne parlons pas encore de vacances, mais au Châtelet, ça marche toujours.
Au Châtelet, c'est extraordinaire.
Le succès c'était dur de prendre ça en main.
Le succès de Gypsy est fantastique. Comme vous dites, c'était très dur parce que le Châtelet était tombé au fond de l'eau, c'est le cas de le dire.
C'est un tour de force, c'est un miracle que vous avez accompli là.
Je ne sais pas si j'ai accompli un miracle, parce que les hommes, je ne sais pas s'ils font des miracles, mais enfin, la réussite est extraordinaire.
Vous continuez le même spectacle, en tout cas, il n'est pas question de le changer.
Devant le succès de Gypsy, je suis obligé de continuer jusqu'en février 1974.
C'est merveilleux. Est-ce que vous pensez faire relâche cet été ?
Oui, je fais relâche cet été, pendant 5-6 semaines, de toute façon, parce que mes artistes ont besoin de se reposer.
Prévu pour quelques dizaines de dates au Châtelet, l'opérette Gypsy dépassera donc les 600 représentations et s'arrêtera début 1974 après avoir tenu 2 ans l'affiche. Elle entamera aussitôt une longue tournée à travers la France, couronnée de succès. Elle sera même présentée à la télévision le 1er janvier 1975 avec les principaux créateurs. La production suivante de Francis Lopez est l'opérette western Les Trois Mousquetaires, en 2 actes et 21 tableaux, très librement adaptée par René Jolivet du roman d'Alexandre Dumas. Initialement destinée au théâtre Mogador, elle est finalement créée au Châtelet en février 1974. Les couplets sont toujours de Daniel Ringold et les musiques de certaines chansons sont d'Anja Lopez.
France Musique, Tour de chant, Martin Penney.
La distribution des Trois Mousquetaires comprend le ténor Mario Brunini, Maurice Baquet, Maria Candido, en remplacement de la soprano de l'opéra Ariel Donizot, tombée malade, Jean-Marie Prolier, Nicky Nancel, incarnant la redoutable Milady de Winter, Max Montavon dans le rôle de Richelieu et bien d'autres, dont Jacques Chazot pour un intermède dansé. 200 personnes sur scène, 40 musiciens dans la fosse, 20 cavaliers et leurs chevaux, des duels, des batailles, des cascades feront de ce spectacle un triomphe. En décembre 1973, les actualités de France Inter se déplacent au Châtelet pour une émission spéciale en avant-première, présentée par Yves Morosi.
Tenez, Madame Lopez est là et je crois qu'elle est déjà en costume de D'Artagnan. Aramis, c'est le plus beau des mousquetaires. Vous avez prévu pour les trois mousquetaires au Châtelet déjà quelques couplets additionnels ?
Oui, bien sûr, comme d'habitude.
Comme d'habitude ? Des couplets qui seront dans la bouche de qui, Anja ?
Dans la bouche de la reine, de Milady.
Ah, vous faites chanter la reine. Ouais. Tenez, Francis, venez donc ici. Vous pourriez nous faire chanter D'Artagnan, parce que si D'Artagnan n'est pas encore là, dites-moi, qui sera votre D'Artagnan ?
Ah, c'est un nouveau chanteur, ce sera une découverte, je crois, dans les 74.
Il pouvait pas être là aujourd'hui parce que je vois qu'il a une obligation ce soir.
Il chante la Tosca en province, alors il pouvait pas refuser ses contrats.
Oui, mais si vous vous mettiez au piano, vous pourriez nous dire déjà un petit peu ce que sera le grand air des Trois Mousquetaires.
Avec lui ?
Oui, mais il peut écouter de toute façon le disque sera enregistré. Il vous demande beaucoup de conseils, Anja, Francis ?
Oh, de temps en temps, oui.
De temps en temps. Vous lui en prodiguez ?
Oui.
Oui. C'est ce chapeau, c'est cet ensemble que vous aviez porté l'autre soir, la première des Trois Mousquetaires, de Richard Lester.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Vous avez eu beaucoup de succès, je le sais, cher Aramis. Le grand air des Trois Mousquetaires, Francis Lopez. En avant-première, allez, oui. Oui, vous chantez, oui. Oui, ça marche. La Belle de Cadix, c'est ça.
D'Artagnan de Gascogne, la 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 la. Je viens d'un pays de cocagne, à deux pas de l'Espagne, au soleil éclatant. Chez moi, au pied de ma montagne. Je cogne à tous les vents. C'est vrai, comme tous les Gascons, je suis soldat de profession.
La vedette des Trois Mousquetaires dans le rôle de D'Artagnan est donc le ténor Mario Brunini que nous entendions à l'instant dans l'un des principaux airs accompagné par le grand orchestre de Paul Bonneau. Malheureusement, Mario Brunini décédera peu après cette opérette qui tient l'affiche durant près de 300 représentations. Francis Lopez, qui a débuté sa carrière dans les années 40 avec des chansons pour les vedettes de music hall, n'a pas totalement abandonné ce genre de composition lorsque l'occasion se présente. En 1953, il avait déjà écrit pour Joséphine Baker la musique de la chanson « Dans mon village », célébrant sa vaste entreprise des Milandes et son idéal de fraternité. C'est à nouveau le cas en 1975 pour l'ultime revue de Joséphine, montée à Bobino au mois d'avril. Avec son compère Daniel Ringgold, Lopez a signé plusieurs airs et surtout le grand final Paris-Paname. Ils pourront en témoigner en 1991 au micro de Thierry Beccaro sur Radio Bleu.
J'ai fait sa dernière revue d'ailleurs avec mon ami Ringgold. Et puis moi j'avais fait Joséphine Baker tout à fait au début à la guerre, elle était encore en soldat, je me souviens toujours. Et après, à la fin, on lui a fait ses dernières chansons pour son dernier spectacle, oui.
Pour le spectacle de Bobino ?
Oui, oui.
C'est vous qui l'avez
fait ? Tout le final, Paris-Paname, tout
ça. Paris-Paname, c'est vous qui l'avez
fait ? Oui, tout ça. Et puis tous les ballets, le ballet gypsy, le ballet, tout ça, j'avais fait, oui, tout ça.
Oui.
Et malheureusement, et je me souviens toujours, bon, puisqu'on parle d'anecdotes, au dîner de gala qui a, pour la générale, on était, j'étais à côté de Joséphine, bien sûr, et... J'avais là des gens, et Joséphine me prend par le bras, elle me dit « Francis, j'en peux plus », elle m'a dit. J'ai dit « Mais écoute, Joséphine, t'as l'air... » Elle me dit « Je n'en peux plus », elle me dit « Je suis à bout de force », elle me dit « Je terminerai pas », elle me dit « Ce spectacle ». Je lui dis « Mais si, vous savez... » Après, on se dit « C'est vrai, mais sur le moment, je disais non, elle venait de faire un triomphe sur la scène, c'est vrai, c'est formidable. » Je lui dis « Mais si, Joséphine, tu vas... » Elle me dit « Francis, je te dis « J'en peux plus », je finirai pas ».
Et on connaît la suite.
Trois jours après.
On connaît la suite.
Paris, c'est une femme.
Paname.
Appelez donc Paris, Paname.
Paname.
Paname, c'est la fleur du Paris que vous pouvez trouver au bord de Seine.
Paname.
Paname, c'est un joli minois qui sait prendre parfois l'air d'une reine.
Paname.
Avec des airs de grande dame.
Paname.
Tu es le chic, tu es la femme.
Paname.
Paname. Pour un simple refrain, tu anoblis quelqu'un et tu l'acclames. C'est ça qui fait Paris. Paname, 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 Paname. Paris, Paname. Du Sacré-Cœur à Notre-Dame.
Paname.
Écoutez la voix de Paname.
Paname.
Paname, c'est un grand escalier, une femme empanachée pour oriflamme.
Paname.
Paname, c'est un peu de mon cœur qui sous les projecteurs pour vous enflamme.
Paname.
Pour faire l'amour, quel beau programme.
Paname.
Tu brûles en nous comme une flamme.
Paname.
Paname, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la flamme. Alors chantez Paris, Paname, 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 Paris, Paname, Paris, Paname. Je n'oublierai jamais Paname, ni vous, messieurs. Ni vous, mesdames. Paname, j'ai su garder pour toi comme un bouquet de joie. Mes chansons nettes. Paname, avec mes deux amours, il a suffi d'un jour pour
pour ta conquête. Alors, merci, Paris, Paname. Merci pour tout, du fond de l'âme. Paname, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la femme. C'est tout mon cœur, Paris, Paname, 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 Paname. Paris, Paname, Paris,
Alors que l'affiche du Châtelet est occupée par les Trois Mousquetaires, Francis Lopez présente en février 1975 au Théâtre Mogador une opérette à grand spectacle en 24 tableaux intitulée Fiesta. Elle est inspirée par la révolution mexicaine des années 1910, menée notamment par le jeune Pancho Villa. Le résultat est une fresque beaucoup plus naturelle que celle du chanteur de Mexico, opérette créée triomphalement par Luis Mariano 14 ans plus tôt. Le livret de Fiesta, assez comique, est signé par Claude Dufresne, les couplets par Jacques Plante, la musique éclatante et vigoureuse est une collaboration de Francis Lopez et de sa femme Anja. La mise en scène est particulièrement spectaculaire, avec un maximum d'ingrédients différents, couleurs, lumières, costumes, effets spéciaux, comme des coups de canon sur scène.
Cherche la compagne qui va cette nuit-là s'endormir dans mes bras. C'est moi, Pancho Villa. Tout le Mexique chante avec moi. Demain, la victoire est certaine. Fini les peines, fini les pleurs. Yeah.
l'affiche de Fiesta réunit le puissant ténor Frank Villano, venu de l'Opéra Comique, et Maria Candido, ainsi que Katia Tchenko, Max Montavon, Maurice Baquet et Pierre Doris dans les rôles comiques. L'orchestre est dirigé par Paul Piau. En mars 1975, la télévision diffuse un reportage de Christiane Delacroix sur cette nouvelle production.
Dans la frénésie mexicaine, Fiesta à Mogador célèbre le culte de la joie. Pour sa nouvelle opérette, Francis Lopez lance des rythmes nouveaux, mais reste dans la bonne tradition, rien ne manque à la fête. Ni le héros bien-aimé Pancho Villa, le révolutionnaire au cœur fidèle, ni les thèmes favoris, amour, passion, action, révolution. Cette fiesta connaîtra-t-elle le succès de la Belle de Cadix ou du Chanteur de Mexico ? Francis Lopez, l'homme qui a mis en musique 86 opérettes, tente le pari.
Je viens au Mexique pour filmer les aventures de Pancho Villa. Pancho Villa, puis aussi de toutes les jolies filles qui sont dans le coin.
D'abord, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je suis le colonel Trocadero. Je suis l'administrateur de cette ville. Vous n'avez pas le droit de me déranger. Vous savez, je surveille les révolutionnaires. Depuis 68, j'arrête pas.
Pancho Villa, c'est moi. Demain, la victoire est certaine. Fini les peines et fini les pleurs. Demain, nous briserons les chaînes.
Je suis venu pour faire sauter le train. C'est le village qui m'envoie. Les hommes du général Huerta ne se méfieront pas d'une femme.
Arrêtez, c'est une femme !
Il y a plus de 25 ans que vous faites de l'opérette.
Il y a 30 ans. 30 ans.
Et vous êtes un découvreur de vedettes.
Mon Dieu, j'ai toujours eu la chance d'avoir des vedettes qui sont passées sur ma route et nous avons pris le train ensemble. J'ai commencé avec Mariano en 1945 avec la Belle de Cadix. Et nous avons travaillé 27 ans ensemble, hélas, jusqu'à sa dernière opérette. Et puis ensuite, bon, la vie continue. J'ai eu José Todaro pour Gypsy, j'ai eu Brunini. Et maintenant, alors, je crois un phénomène qui s'appelle Frank Villano qui va être une énorme révélation. C'est un garçon, on fait 1m88, on dirait un champion de boxe. Il travaille à l'américaine, vous comprenez. C'est à la fois Presley, c'est un ténor à l'italienne, c'est tout ce que vous voulez, il est formidable.
Qu'est-ce qui a changé dans la musique de Francis Lopez ?
Je ne sais pas, il y a peut-être une sorte de maturité. C'est plus moderne aussi dans tout, dans le système, dans les rythmes, dans les orchestres. Tout est plus moderne. Si vous voulez, je me rapproche presque de la comédie musicale comme on a fait en Amérique. Là.
Anja, vous avez fait les costumes,
oui.
De très nombreux costumes.
400 costumes, j'ai fait.
Vous les avez voulus dans l'atmosphère de la danse, très
oui,
dansant.
Oui, exactement, soleil, pleine couleur, pleine gaieté.
En 24 tableaux, Fiesta réunit 90 artistes sur scène et a coûté 150 millions.
Voici à présent Frank Villano et Maria Candido dans le final de Fiesta.
Aïe, Mexico, que de sang, que de pluie, que de larmes.
Aïe, Mexico, que de mort pour le monde.
J'avais pris les armes. Aïe, Mexico, c'est pour toi que j'avais tout quitté. Aïe, Mexico lindo, Mexico lindo, je suis à toi.
Amis qui m'acclament.
amour dans les yeux d'une femme.
Fin 1975, la concession du théâtre du Châtelet revient à Jean Bauchet, déjà propriétaire du Casino de Paris, qui engage des travaux et réembauche comme directeur artistique Francis Lepez. Celui-ci conçoit le Châtelet comme un conservatoire de l'art lyrique populaire, comme il l'explique aux actualités de France Inter.
En gros, si vous voulez, mes idées et celles de Jean Bauchet sont de faire de plus en plus de créations d'opérettes, parce qu'il part du principe que si on reprend toujours le vieux répertoire, c'est on recule. Or, comme il veut avancer, nous allons donc faire de la création et de la super création avec des mises en scène fantastiques, avec des clous dignes du Châtelet de dans 20 ans, je dirais. Hein? Alors, donc nous ferons beaucoup de créations. Nous allons en plus essayer de faire un super conservatoire municipal de la ville de Paris, qui permettra d'avoir les trois disciplines, c'est-à-dire la comédie, le chant et la danse. Et puis, surtout, nous voudrions essayer d'amener à ce théâtre toutes les clientèles de France. Il y a déjà beaucoup de clientèles, mais je voudrais amener, comme j'avais réussi avec Gypsy il y a 3 ans, à amener tous les jeunes au théâtre du Châtelet. Et pour ça, je crois qu'il faut aller de l'avant dans la création et tout ça.
Durant les travaux, le Châtelet présente des reprises d'opérettes viennoises. Pour renouveler l'affiche du théâtre, en novembre 1976, Francis Lepez monte l'opérette Volga, dont l'action se déroule en 1905, lorsque la Russie est en proie à des convulsions qui annoncent la fin de l'Empire. L'opérette est conçue par la même équipe que la précédente, avec cette fois le retour de Paul Bonneau à la direction d'orchestre. La distribution fait appel à José Todaro, le ténor qui avait triomphé dans Gypsy 4 ans plus tôt, ainsi qu'à Maria Candido, Lena Oliveira, Maurice et Sophie Baquet. Au bout d'un an, José Todaro quitte l'affiche du Châtelet pour reprendre ses activités en tant que chanteur d'opéra. Il est alors remplacé par le grand ténor canadien André Jobin, ce qui permettra à l'ouvrage de se maintenir à l'affiche durant 19 mois jusqu'en juin 1978.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Dans tes mains, c'est la liberté qui passe, c'est la Volga qui nous ouvre le chemin, c'est la Volga qui conduit notre destin. Volga, notre mère, Volga, prends-nous dans tes bras, imposant à
chante avec nos joies, ma Volga. Va comme une reine, va comme une chaîne, va de cœur en cœur, ma Volga. Frappe, frappe, frappe dans tes mains, c'est l'immensité qui passe. C'est la Volga, tendre et folle tour à tour. C'est la Volga, comme un océan d'amour. Volga, ta mère, Volga, depuis tant de temps, les jours de colère, tu défends tes enfants. En paix ou en guerre, pour nous, pour être soldats,
Volga est la dernière grande création au Châtelet de Francis Lopez, qui n'a pas vraiment su faire évoluer la tradition des opérettes. En 1979, la ville de Paris, propriétaire des murs, décide d'en reprendre l'exploitation directe et de le rénover sous le nom de Théâtre Musical de Paris, pour en faire avant tout une salle de concerts et de spectacles internationaux, sous la direction de Jean-Albert Cartier. En février 80, la plaie est encore vive, comme le souligne Yves Mourouzi aux actualités de France Inter.
Oui, alors il y en a hein, qui, ça fait quand même un peu mal au cœur, cette transformation. Ce théâtre était voué à l'opérette, c'était le royaume de ce que je disais tout à l'heure, des ballets madrilènes, le royaume des tyroliens, le royaume des tziganes, des chevaux, des cascades, de ce valet qui était toujours un petit peu fripon et des grandes histoires d'amour. Ce royaume, c'était celui de Francis Lopez.
Moi, ça me fait beaucoup de peine et ça me fait aussi beaucoup de mal, parce que moi, je pense que c'est plutôt un assassinat du Châtelet qu'on est en train de faire. Un assassinat du Châtelet en tant que temple de la grande opérette depuis un siècle. Là, on a vu tous les plus beaux spectacles, Michel Strogoff, le Tour du Monde, ensuite toute la grande série des opérettes. Et la France entière, et la France et même du monde entier, on venait au Châtelet. Moi, je vois bien tous les provinciaux qui venaient à Paris, eh bien, venaient passer une soirée au Châtelet, comme on va une fois aux Folies Bergères. Et ils étaient ravis, ils en avaient pour l'année, ils écrivaient. Et d'ailleurs, depuis l'annonce que le Châtelet ferme ses portes, si vous voulez, à la distraction, parce que, appelons ça la distraction, les opérettes que nous faisions, je reçois, bon an, mal an, des milliers de lettres qui me demandent de faire quelque chose pour que ça redevienne le temple de l'opérette gay, de l'opérette à grand spectacle.
Au début des années 1980, le Châtelet et Mogador se tournent donc vers d'autres disciplines artistiques. Francis Lopez doit alors se replier sur des salles nettement plus modestes, sans machinerie ni fosse d'orchestre, qui ne peuvent accueillir d'opérettes à grand spectacle. Ce sera le Théâtre de la Renaissance, puis l'Élysée-Montmartre et enfin l'Eldorado. Durant les 15 dernières années de sa carrière, il produira tout de même une vingtaine d'opérettes avec des moyens plus limités, matériellement et artistiquement. Cela le conduira à découvrir de nouveaux talents, figurant aux côtés de valeurs sûres comme Georges Guettari et Maria Candido. Cette dernière période assez dense fera l'objet d'un ultime épisode dans Tour de chant. En attendant, vous pouvez réécouter et podcaster cette série d'émissions hommages sur le site francemusique.fr et l'application Radio France. Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours d'Isé et Schorn à la préparation, Claire Levasseur au mixage et Noé Mignard à la réalisation. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France et à Mylène Touchet pour les précieuses archives de l'INA.
France Musique.